Alors, on s'assit autour d'une haute soupière d'où sortait un parfum de choux. Malgré cette alerte, le souper fut gai, le cidre était bon, le ménage Loiseau et les bonnes sœurs en prirent par économie. Les autres demandèrent du vin. Cornudet réclama de la bière. Il avait une façon particulière de déboucher la bouteille, de faire mousser le liquide, de le considérer en penchant le verre, qu'il élevait ensuite entre la lampe et son œil, pour bien apprécier la couleur. Quand il buvait, sa grande barbe, qui avait gardé la nuance de son breuvage aimé, semblait tressaillir de tendresse. Ses yeux louchaient pour ne point perdre de vue sa chope, et il avait l'air de remplir l'unique fonction pour laquelle il était né. On eût dit qu'il établissait en son esprit un rapprochement et comme une affinité entre les deux grandes passions qui occupaient toute sa vie, le Pale Ale et la Révolution. Et assurément, il ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre. Monsieur et Madame Follenvie dînaient tout au bout de la table. L'homme, râlant comme une locomotive crevée, avait trop de tirage dans la poitrine pour pouvoir parler en mangeant. Mais la femme ne se taisait jamais. Elle raconta toutes ses impressions à l'arrivée des Prussiens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les exécrant d'abord parce qu'ils lui coûtaient de l'argent, et ensuite parce qu'elle avait deux fils à l'armée. Elle s'adressait surtout à la comtesse, flattée de causer avec une dame de qualité. Puis, elle baissait la voix pour dire des choses délicates, et son mari, de temps en temps, l'interrompait. « Tu ferais mieux de te taire, Madame Follenvie. » Mais elle n'en tenait aucun compte et continuait. « Oui, madame, ces gens-là, ça ne fait que manger des pommes de terre et du cochon, et puis du cochon et des pommes de terre. Il ne faut pas croire qu'ils sont propres. Oh non, ils ordurent tout, sauf le respect que je vous dois. Et si vous les voyez faire l'exercice pendant des heures et des jours, ils sont là tous dans un champ et marchent en avant et marchent en arrière et tournent par-ci et tournent par-là. S'ils cultivaient la terre au moins, ou s'ils travaillaient aux routes dans leur pays. Mais non, madame, ces militaires, ça n'est profitable à personne. » Faut-il que le pauvre peuple les nourrisse pour n'apprendre rien qu'à massacrer ? Je ne suis qu'une vieille femme sans éducation, c'est vrai, mais en les voyant qui s'esquintent, le tempérament à piétiner du matin au soir, je me dis, quand il y a des gens qui font tant de découvertes pour être utiles, faut-il que d'autres se donnent tant de mal pour être nuisibles ? Vraiment, n'est-ce pas une abomination de tuer des gens, qu'ils soient prussiens ou bien anglais ou bien polonais ou bien français ? Si l'on se revenge sur quelqu'un qui vous a fait du tort, c'est mal puisqu'on vous condamne. Mais quand on extermine nos garçons, comme du gibier, avec des fusils, c'est non bien, puisqu'on donne des décorations à celui qui en détruit le plus ? Non, voyez-vous, je ne comprendrai jamais cela. Cornudet éleva la voix. La guerre est une barbarie quand on attaque un voisin paisible. C'est un devoir sacré quand on défend la patrie. La vieille femme baissa la tête. Oui, quand on se défend, c'est autre chose. Mais si l'on ne devrait pas plutôt tuer tous les rois qui font ça pour leur plaisir ? L'œil de Cornudet s'enflamma. « Bravo, citoyenne » dit-il. Monsieur Carré-Lamadon réfléchissait profondément. Bien qu'il fût fanatique des illustres capitaines, le bon sens de cette paysanne le faisait songer à l'opulence qu'apporterait dans un pays tant de bras inoccupés et par conséquent ruineux, tant de forces qu'on entretient improductives si on les employait aux grands travaux industriels qu'il faudra des siècles pour achever. Mais Loiseau, quittant sa place, alla causer tout bas avec l'aubergiste. Le gros homme riait, toussait, crachait, son énorme ventre sautillait de joie aux plaisanteries de son voisin, et il lui acheta 6 feuillettes de Bordeaux pour le printemps, quand les Prussiens seraient partis. Le souper, à peine achevé, comme on était brisé de fatigue, on se coucha. Cependant, Loiseau, qui avait observé les choses, fit mettre au lit son épouse, puis colla tantôt son oreille et tantôt son œil au trou de la serrure pour tâcher de découvrir ce qu'il appelait les mystères du corridor. Au bout d'une heure environ, il entendit un frôlement, regarda bien vite et aperçut Boule de Suif qui paraissait plus replète encore sous un peignoir de cachemire bleu bordée de dentelles blanches. Elle tenait un bougeoir à la main et se dirigeait vers le gros numéro tout au fond du couloir. Mais une porte à côté s'entr'ouvrit, et quand elle revint au bout de quelques minutes, Cornudet en bretelles la suivait. Ils parlaient bas, puis ils s'arrêtèrent. Boule de Suif semblait défendre l'entrée de sa chambre avec énergie. Loiseau, malheureusement, n'entendait pas les paroles, mais à la fin, comme ils élevaient la voix, il put en saisir quelques-unes. Cornudet insistait avec vivacité. Il disait « Voyons, vous êtes bête. Qu'est-ce que ça vous fait ?» Elle avait l'air indignée et répondit « Non, mon cher, il y a des moments où ces choses-là ne se font pas. Et puis ici, ce serait une honte. » Il ne comprenait point sans doute et demanda pourquoi. Alors elle s'emporta, éleva encore le ton. « Pourquoi ? Vous ne comprenez pas pourquoi ? Quand il y a des Prussiens dans la maison, dans la chambre à côté peut-être ?» Il se tut. Cette pudeur patriotique de catin, qui ne se laissait point caresser près de l'ennemi, dut réveiller en son cœur sa dignité défaillante, car après l'avoir seulement embrassée, il regagna sa porte à pas de loup. L'oiseau, très allumé, quitta la serrure, bâtit un entrechat dans sa chambre, mit son madras, souleva le drap sous lequel gisait la dure carcasse de sa compagne, qu'il réveilla d'un baiser en murmurant « M'aimes-tu, chérie ?» Alors toute la maison devint silencieuse. Mais bientôt s'éleva quelque part, dans une direction indéterminée qui pouvait être la cave aussi bien que le grenier, un ronflement puissant, monotone, régulier, un bruit sourd et prolongé, avec des tremblements de chaudière sous pression. Monsieur Follenvie dormait.